franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'épopée des All Blacks. Allez, on va commencer par un haka pour souhaiter les yeux dans les yeux. La bienvenue, parce qu'il s'agit évidemment d'un message de bienvenue à notre hôte, qui est un historien des sports. Paul Dietschy, bonjour.
Bonjour.
Comme nous sommes tous de cette planète, ainsi que l'indiquait Claire Sarvajan il y a un instant, nous savons tous que c'est la 7e Coupe du Monde de rugby. Samedi 24 septembre, les Bleus vont à la rencontre des Blacks sur leur terrain d'Eden Park à Auckland. Il est des nations traditionnelles du rugby qui sont toujours dans l'attente d'une victoire contre les Blacks. Ce n'est certes pas le cas de la France. Néanmoins, affronter les Blacks, cela équivaut toujours à un passage de diplôme, un dépucelage, parce que les All Blacks, c'est une légende sans cesse renouvelée. Le plus vieil emblème d'un pays jeune, la Nouvelle-Zélande, est tout sport confondu, une des 10 équipes les plus connues dans l'univers. Et depuis la professionnalisation du rugby, 1995, c'est une marque qui plonge dans le grand bain mondial, cette Nouvelle-Zélande qui autrement resterait volontiers assise tranquillement sur le rebord de la planète. Je vous ai présenté comme un historien des sports, Paul Dietschy, bonjour.
Bonjour.
Historien qui publie régulièrement aux éditions Nouveau Monde. Les éditions Nouveau Monde considèrent que le sport, c'est un sujet d'histoire, au même titre, je ne sais pas, que l'une de leurs spécialités, l'espionnage. Il y en a qui ne sont toujours pas convaincus quand même de ce pari. Ainsi, l'Inspection Générale d'Histoire, c'est très compliqué de faire des programmes d'histoire, sujet à controverse, avait inscrit comme projet de raconter une grande manifestation internationale sportive comme exemple de la mondialisation. Puis les professeurs ont contesté et finalement, ça ne sera pas dans le programme.
Alors, si je suis méchant, je dirais que c'est un signe du conservatisme d'une partie du corps enseignant. Si on analyse peut-être la structure sociologique du corps enseignant, c'est aussi le fait qu'il est assez féminisé, peut-être que les femmes sont moins attentives aux faits sportifs que les hommes.
Et puis alors, vous allez me dire aussi que les professeurs d'histoire ne sont pas assez sportifs. Vous m'avez d'ailleurs demandé avant l'émission, mais vous ne faites pas de sport, vous Jean Lebrun.
Non, il y a aussi peut-être une autre raison, c'est qu'ils ne sont pas assez attentifs aux évolutions de l'historiographie. L'histoire du sport, c'est quelque chose qui est bien inscrit dans le paysage de l'université française depuis une vingtaine d'années. Et de plus en plus de jeunes chercheurs, agrégés, normaliens, etc., font des thèses sur l'histoire du sport.
Et vous enseignez, vous, à l'université de Franche-Comté, vous êtes labellisé, autorisé. Et puis, quoi de mieux pour raconter à la fois la mondialisation et la territorialisation que le rugby. Alors on commence par le deuxième terme. L'inscription dans un territoire, le territoire des Blacks, c'est un pays très fier de sa nature, jalousement préservé, le propre pays de Dieu, disait André Boniface.
Ils sont 4,5 millions d'habitants, ils vivent dans leur bonheur. Moi, j'ai un copain qui va tous les ans en Nouvelle-Zélande, il me dit, j'ai jamais rencontré un mec, un Néo-Zélandais con. Non, mais sa phrase, elle est comme ça. Alors, il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai vu que des Néo-Zélandais beaux. Non, mais c'est... Et moi, je dis, moi, je vois que des Néo-Zélandais heureux. L'autre soir, j'ai assisté au discours de Mako, mais c'était un bonheur de le voir. On aurait dit un étudiant qui rentre en première année d'université. Il a pris la parole, il était gay, il était beau, il faisait plaisir à voir, quoi. Il avait pris son plaisir de rugby. Ils étaient passés en France, ils nous avaient mis une petite fessée en passant, et ils allaient au Pays de Galles, où on allait leur empêcher de faire le haka sur le terrain, mais ils l'ont fait dans les vestiaires, et ils ont passé 45 points au galop avant de repartir tranquillement chez eux. Et chez eux, ils retrouvent leur bonheur. Ils sont bien là-bas, ils sont loin de tout, ils sont loin des tracas de la vie. Pour moi, le pays du bonheur, c'est la Nouvelle-Zélande. Et ça se reflète à travers leur jeu.
Alors, le propre pays de Dieu, le pays aussi, dans l'hémisphère sud, où règne la reine d'Angleterre, même si le pays est indépendant depuis 1947. D'ailleurs, c'est une importation britannique que le rugby en Nouvelle-Zélande, un petit peu comme en Australie, avec peut-être une grève plus précoce et qui a moins bien pris en Australie.
Absolument. Le rugby fait partie des deux sports impériaux en tant que tel avec le cricket. Parce qu'ils sont considérés dans les collèges anglais de la seconde moitié du 19e siècle comme les sports qui permettent de forger le parfait gentleman et surtout les officiers, les fonctionnaires britanniques qui vont être fidèles. Et en particulier les valeurs de combat, l'engagement physique propre au rugby, évidemment, rend compte du courage que doit avoir donc le colonisateur. Alors la différence entre Australie et Nouvelle-Zélande, voire Afrique du Sud, c'est le fait que en Nouvelle-Zélande, c'est une population qui est composée avant tout, pour les colons, de fermiers venant des classes populaires, mais qui sont attachés à la mère patrie par un système de collèges dans lesquels les valeurs britanniques sont enseignées, d'où un rapport très proche entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Si on prend le cas de l'Australie, c'est tout à fait différent. Vous avez une classe ouvrière, évidemment, nombreuse en Australie. Vous avez évidemment un rapport un peu ambivalent vis-à-vis de la métropole, puisque de nombreux bagnards ou des exilés ont été envoyés en Australie. Ce qui fait qu'il y a une double culture, à la fois volonté de revanche contre le Royaume-Uni, et puis en même temps développement de sports professionnels que sont le rugby à 13 et le football australien.
La métropole britannique exporte le rugby dans le dernier tiers du 19e siècle. En Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais sont fiers de se confronter avec les seniors britanniques, notamment dans une fameuse tournée en 1905. C'est à ce moment-là que se fixe le nom de All Blacks.
Oui, alors la première grande tournée de l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est évidemment 1905 et 1906, puisqu'ils jouent aussi à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre le nom. En Nouvelle-Zélande, on les appelle l'équipe de Nouvelle-Zélande ou l'équipe de la colonie. Et c'est, selon la légende, un journaliste du Daily Mail qui aurait été mal compris, qui aurait demandé au typographe d'écrire « They are all backs », c'est-à-dire « ils sont tous arrière » parce que les joueurs néo-zélandais, dès ce moment-là, savent tout faire. Et le typographe aurait écrit « They are all blacks ». En réalité, c'est une légende, mais la presse britannique, eh bien, les appelle très vite. Ils sont tous les All Blacks. Pour quelle raison ? C'est que c'est leur tenue, et une tenue en fait qui provient de l'influence écossaise dans les collèges de Nouvelle-Zélande, puisque traditionnellement dans les collèges écossais, eh bien, on faisait jouer les équipes les blancs contre les noirs pour jouer au rugby.
C'est bien quand on consacre une marche de l'histoire au sport, on peut parler de légende. Il y a une autre légende qui dit que s'ils sont en noir, c'est que les All Blacks portent le deuil de leurs adversaires. En fait, de Blacks, ils sont quand même généralement blancs. Les Pakehas, c'est le nom de la population majoritaire européenne d'origine de Nouvelle-Zélande que rencontre Roger Couder. Roger Couder, reportage de 64.
Qui sont ces fameux All Blacks qui viennent de semer la terreur ces derniers mois sur tous les terrains de Grande-Bretagne? Des sortes de monstres surgis des geysers de Rotorua? Pas du tout. Voici le phénoménal arrière Don Clark, chez lui, dans sa ferme de Waikato. Ce gaillard sympathique de 1m92 pour 105 kg s'entraîne tous les jours dans une prairie de sa propriété où il a installé des poteaux de but. C'est le père qui dirige l'entraînement de ses cinq fils, Brian, Graham, Doug, Yann, le pilier, et Don. Quant à maman Clark, elle est chargée du lavage des maillots, une histoire de famille en quelque sorte. En vérité, les Néo-Zélandais sont des garçons joyeux, sympathiques et loyaux, pour lesquels le rugby représente une sorte de mystique avec laquelle on ne plaisante pas. Ces images vous prouvent que sur un terrain, les All Blacks remplissent une mission, et qu'ils la remplissent jusqu'au bout, impitoyablement, et gare à ceux qui se trouvent sur le chemin de ces rouleaux compresseurs.
Roger Couder, témoin de la vieille France provinciale et multiple, ne pouvait qu'aimer les fermiers simples, dur au mal, prospère aussi.
Oui.
La laine, la viande de Nouvelle-Zélande sont bien connues.
On trouve évidemment une correspondance entre le rugby de village du sud-ouest de la France et cette terre promise, cet Éden que serait le rugby néo-zélandais. Et en fait, c'est aussi une image qui est régulièrement réutilisée et qui a une part de vérité. Grande partie des grands joueurs néo-zélandais, justement, de, par exemple, George Nepia, qui était le premier grand arrière maori dans les années 20, jusqu'à Dan Carter, le demi d'ouverture, sont des fils de fermiers, hein, et deviennent ensuite, après leur carrière, fermiers. Et on associe donc, évidemment, les vertus de ce rugby aux vertus de la campagne, hein, donc des hommes qui ne seraient pas touchés par la ville, hein, et par la corruption de la ville.
Et Maori, avez-vous dit, il y a bientôt, début octobre, au Quai de Branly à Paris, une exposition sur les Maori, il y a les Paquéas, et puis alors il y a les Maori, qui sont quand même arrivés plus de 1000 ans avant les Européens, et qui ont toujours résisté à l'idée de domination totale de la Nouvelle-Zélande par la société européenne.
Alors là, c'est une particularité justement dans l'Empire britannique, hein, ils sont arrivés vers le 8e siècle. Ils ont eu des contacts assez tôt, hein, notamment du 8e siècle, avec le fameux capitaine Cook, et surtout ils ont eu des contacts avec des fugitifs venant d'Australie. Donc ils ont appris très tôt à manier les armes, et ils ont appris très tôt à utiliser le savoir, hein, des Européens. Ce qui fait que lorsque les Britanniques décident d'imposer leur tutelle, hein, et, sur la Nouvelle-Zélande, les deux îles, en 1840, eh bien, d'abord, bon, ils vont signer un traité, mais de 1845 à 1872, un certain nombre de Maoris, de tribus Maoris, vont résister, vont essayer d'imposer une monarchie Maori, ce qui fait qu'ils vont gagner, hein, le respect des Britanniques. Et ils ne vont... Alors, évidemment, cette guerre est aussi très largement menée pour préserver leurs terres, mais ils vont réussir quand même à s'insérer très vite dans le système de la colonisation. Et en 1867, ils obtiennent au moins formellement le droit de vote.
Alors, c'est un traité chef-d'œuvre d'équivoque diplomatique que ce traité de 1840. De même, l'équipe de rugby qui intègre, sans intégrer totalement au début.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première équipe qui fait un tour... donc dans la mère patrie, c'est en 1888, une équipe de natives, donc d'indigènes, renforcée par 4 blancs. Donc très tôt, ils jouent. Hein. Et à partir des années 1910-1920, eh bien, les Maoris font partie de l'équipe, même s'il peut y avoir des équipes All Blacks spécifiquement Maoris, hein, qui peuvent d'ailleurs parfois rencontrer quelques difficultés. 1956, par exemple, on leur demande de perdre contre l'Afrique du Sud lorsque l'Afrique du Sud vient jouer à Auckland pour éviter que les Sud-Africains n'invitent plus les All Blacks.
Afrique du Sud, avez-vous dit. Alors, dans le cadre de l'Empire britannique, c'était une habitude qu'il y ait des tournées des Springboks, la première en 1921 en Nouvelle-Zélande, des tournées des All Blacks en Afrique du Sud, la première en 1928. Mais évidemment, quand naît la crise de l'apartheid, les échanges si habituels se poursuivent sur un mode plus politique et provoquent des affrontements. Archives 1976-1981.
Ce par qui est arrivé le scandale politique des Jeux Olympiques, les voici. L'équipe de rugby néo-zélandaise, les célèbres All Blacks, qui effectue en ce moment une tournée en Afrique du Sud. Les pays africains ont exigé qu'en conséquence, la Nouvelle-Zélande soit exclue des Jeux. N'ayant pas obtenu gain de cause, tous les pays africains, sauf deux, ont quitté Montréal. Or, beaucoup de pays ont des relations sportives avec l'Afrique du Sud. En tout cas, l'action des pays africains a soulevé un tollé général. Pour beaucoup de gens, la politique a gâché le sport et c'est l'Afrique qui en est responsable.
Il y a eu de nouveaux incidents pendant la tournée des rugbymen sud-africains en Nouvelle-Zélande. À Wellington, les Springboks venaient de gagner face aux All Blacks par 24 à 12 lorsque les manifestations ont commencé. Des milliers de manifestants anti-apartheid voulaient protester contre la politique de l'Afrique du Sud. Il y a eu des affrontements assez violents, vous le voyez sur ces images. Plus de 240 personnes ont été arrêtées dans les principales villes du pays. Et pour la première fois, la police avait eu recours à des chiens pour empêcher les manifestants de pénétrer sur le terrain.
Journal télévisé 76 et le dernier qu'on a entendu 1981. Ça a des répercussions dans la société néo-zélandaise, ce débat politique. Les Maoris, vous dites qu'ils réclament toujours la restitution de leurs terres, sont en train de faire des marches, d'ailleurs à peu près à la même époque.
Oui, un parallèle qui est fait entre la situation d'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, d'autant que non seulement il y a ces tensions à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande, mais surtout l'affaire a une très grande résonance internationale. Hein, ce n'est pas un simple problème entre néo-zélandais, c'est que la Nouvelle-Zélande est montrée du doigt sur la scène internationale, dans les relations internationales. En 76, donc quelques mois après les révoltes de Soweto, eh bien, il y a une tournée de rugbymen néo-zélandais, donc des All Blacks, qui font 3 matchs en Afrique du Sud, et avec pour conséquence le boycott des Jeux de Montréal par les pays africains.
C'est l'écho qu'on entendait tout à l'heure. Et du côté de la Nouvelle-Zélande, on voit des parents parents qui refusent de continuer d'envoyer leurs enfants dans les clubs de rugby, puis des femmes qui se mettent à protester, parce qu'il n'y a pas aussi une accusation, seulement une accusation de racisme, mais aussi une accusation d'antiféminisme qui est portée contre les All Blacks.
Oui, parce que c'est le sport, le rugby est avant tout évidemment un sport masculin qui magnifie hein, la virilité, hein, surtout avec un jeu comme celui des Néo-Zélandais qui est pratiqué par des gens extrêmement forts. Hein, donc également, ça valorise la place de l'homme dans la société maori. Donc il y a cette double combinaison qui se fait et qui fait qu'en 1980, donc, c'est la dernière tournée des Springboks avant la fin d'apartheid et donc des manifestations qui obligent la Rugby Union de Nouvelle-Zélande eh bien, à renoncer à affronter leurs meilleurs ennemis en quelque sorte.
C'était la leçon qu'on entendait tout à l'heure. Mais les choses vont se rétablir. D'ailleurs, pour être juste, il faut dire qu'en Nouvelle-Zélande, je parlais d'antiféminisme, c'est dès 1893 que le suffrage universel a été accordé aux femmes. À bon entendeur, salut le rétablissement. Il va se faire avec la fin de l'apartheid. Et puis avec l'organisation de la première Coupe du Monde qui a lieu en 1987 en Nouvelle-Zélande et qui est remportée par les All Blacks. Et puis la professionnalisation va entraîner aussi beaucoup de conséquences. Alors témoignage du caractère, on parlait de la culture maori, du caractère central dans le corps maori de la voix, un nouveau haka. Aka, caractère central de la voix dans le corps. Ou du corps dans la voix, vous ne savez.
Il y a le haka montre à la fois, donc c'est aussi une poésie, hein, c'est qu'il y a un poème dans le haka qu'on récite, et un poème aussi qui est celui du corps. Hein. La langue tirée, par exemple, signifie le défi. Lorsqu'on fait ressortir les veines du cou dans le haka, eh bien, on signifie l'enracinement du corps dans la mer, dans la terre-mère. Hein. Donc, Tout le haka est un poème à la fois sonore et visuel qui a une signification et qui montre aussi deux choses, qui montre à la fois que c'est une résurgence de la culture maori, mais aussi que les Britanniques qui se sont installés en Nouvelle-Zélande l'ont accepté puisque eux-mêmes le font plus ou moins bien au dire des Maoris.
Permettez-moi, Paul Dietschy, d'être plus prosaïque. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un haka, mais dans un spot d'Adidas. Je parlais de la professionnalisation depuis 1999. Les All Blacks se sont liés à la marque Adidas, comme Bulgari, comme Iveco, le fabricant de poids lourds. Alors, on va maintenant mettre en œuvre votre sagacité. Écoutez, nouveau, au pluriel, haka.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alors expliquez, Paul Dietschy, avant la relance qui indiquait la marche de l'histoire, ce qu'on entendait c'était...
Donc il y a un premier
AK
qui est celui... Enfin, le premier qu'on a entendu, c'est celui de le spot publicitaire Adidas.
Après...
Donc c'est celui des Samoa puisque
voisine.
Toutes les équipes polynésiennes ont leur AK.
D'accord.
Et le troisième, c'est celui des All Blacks.
Dites-moi maintenant, avec la professionnalisation depuis 1995, beaucoup de joueurs des îles viennent en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais n'aiment pas toujours l'immigration des îles, mais enfin, que voulez-vous. Et beaucoup de joueurs néo-zélandais sont attirés par l'étranger.
Oui, alors, Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les Néo-Zélandais ont toujours bien aimé l'argent. Lorsqu'ils sont venus jouer pour la première fois en 1906 en France, eh bien, c'était au terme de conditions financières pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la délégation.
Attendez, moi j'entends dire que les instances professionnelles du rugby en Nouvelle-Zélande étaient très hostiles à la professionnalisation.
Elles étaient quand même près de leurs sous, et il fallait quand même financer 6 mois de voyage pour ces joueurs qui, officiellement, étaient amateurs. Alors, pour revenir à votre première question, oui, il y a cette immigration qui fait que le rugby néo-zélandais est de plus en plus dépendant de ces joueurs issus des Samoa, des îles Tonga, des Fidji, qu'on naturalise qui sont en quelque sorte entraînés dans des centres de formation ou des enfants d'immigration. Évidemment, le plus emblématique, c'est Jonah Lomu, qui est le joueur All Black le plus emblématique de ces 20 dernières années et qui est un fils d'immigrés tongiens et qui est devenu le porte-parole du rugby néo-zélandais.
Mais alors lui, il vient d'atterrir à Marseille-Vitrolles en fin de parcours. Alors, beaucoup de joueurs néo-zélandais jouent à l'étranger. La majorité des grands joueurs néo-zélandais depuis quelques années sont peut-être à l'étranger.
Oui, ils jouent hors période Coupe du Monde. C'est-à-dire que un an ou deux ans avant la Coupe du Monde, ils retournent en Nouvelle-Zélande pour pouvoir prétendre à une sélection, comme le fameux Dan Carter qui a joué notamment à Perpignan. Mais après la Coupe du Monde, il y a un vaste exode parce que les clubs français, les clubs anglais jusqu'à une date récente, eh bien, proposaient de meilleurs salaires. Et la Coupe d'Europe semblait être un lieu où on pouvait s'aguerrir, découvrir un autre rugby plutôt que la grande compétition de franchise, les clubs de l'hémisphère sud, qui s'appelle aujourd'hui les Super 15.
L'une des 10 équipes sportives, tous sports confondus, les plus connues au monde. Et ils ne sont pas au bout du processus de rationalisation et de capitalisation. Vos Néo-Zélandais prennent leurs sous, c'est vous qui le dites, Paul Dietschy, puisque les revenus 2010 des All Blacks sont peut-être de 54 millions de dollars, contre 400 millions ou à peu près pour des clubs de foot de Barcelone ou du Real Madrid.
Bon, on dit aujourd'hui que un objet sur deux lié à des équipes de rugby sont soit un maillot, une casquette, des All Blacks.
Alors, qu'est-ce que c'est ? La montre Bulgarie, 15 000 euros aussi, ça existe à quelques centaines d'exemplaires.
Alors, si on a l'esprit un peu chagrin, on pourrait dire que c'est un signe de la footballisation du rugby, c'est-à-dire un rugby qui, depuis l'instauration du professionnalisme en 1995, eh bien, a besoin d'argent, à créer des vedettes aussi médiatiques et donc est aux mains des services de marketing des grands équipementiers. C'est vrai que c'est un danger, et un danger pour un sport qui repose avant tout, et c'est le cas des All Blacks, sur le collectif. Et ce système met en place évidemment une survalorisation de l'individu, Jonah Lomu, ou évidemment chez nous, quelqu'un comme Sébastien Chabal.
Bon, on va pas se laisser saisir par le rugby blues, comme dit Denis Tillinac. L'histoire du sport, c'est des légendes, en grande partie. Alors, l'histoire des rencontres entre la France et les All Blacks, à la veille du match du samedi 24 septembre 2011. Les rencontres sont parfois équilibrées. Enfin, la première victoire française date de 54, la première rencontre dans un cadre militaire en 1917.
L'équipe militaire de France a bien l'honneur de se présenter à vous, face à celle des All Blacks, bien content de voir défiler tous ces officiels très solennels et une tribune si hautement galonnée, ventre bleu. Voici les rugbymen français qui s'avancent, sur deux, et on va voir ce qu'on va voir. Les Néo-Zélandais ont beau mimer la danse indienne. Et les officiels se congratuler. C'est parti comme en 17, car nous sommes en 1917. Le résultat, on a pris la raclée.
Les Néo-Zélandais nous sont revenus sous le nom de Kiwis. Amical et éternel retour. Je pourrais dire Madeleine Sologne perdue au milieu des spectateurs. Les Kiwis sont en maillot noir devant les maillots clairs de l'équipe de France. Le plus rude adversaire européen des Kiwis qui gagne par 14 points à 9.
Grand rendez-vous du rugby international pour le match France All Blacks au stade Yves du Manoir à Colombes. Dans les tribunes archi-combles, trois spectateurs attentifs, le duc de Windsor, M. Chaban-Delmas et M. Fouché. Les grands maillots noirs profitent de tout. Ils ne laissent pas souffler les Français qui ont les jambes coupées par un drop de lait de l'eau. La victoire des Néo-Zélandais est incontestable, mais un peu sévère pour la France. Quoi qu'il en soit, dans tout cela, le véritable gagnant, c'est le rugby.
Alors là, on touche un aspect central de l'histoire du sport. Et donc, si on doit faire un plaidoyer pour l'histoire du sport, on voit bien la relation entre sport, relation internationale. Pour quelle raison ? La première archive, c'est pendant la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle eh bien, le sport a pris un essor important et notamment a été utilisé par l'entente et les alliés pour représenter symboliquement la solidité de l'alliance, l'engagement des joueurs. Un des grands d'ailleurs joueurs All Black, Dave Gallagher, a été enterré dans le nord de la France. Il est mort sur le front. Plus d'une dizaine de All Black ont été tués pendant le conflit. Ceci dit, ce n'est pas le premier match, hein, puisque le premier match entre l'équipe de France et les All Blacks, c'est 1906, et qui coïncide d'ailleurs avec le premier match joué sur le plan international par l'équipe de France. Hein, donc, il y a une relation extrêmement ancienne. La deuxième archive est aussi intéressante, puisque c'est 1946, qui signe à la fois le retour de l'équipe de France dans le concert international, puisque les Français avaient été exclus du tournoi pendant les années 30, et puis les Kiwis, comme on les appelle à l'époque, eh bien, vont aussi donner un
Kiwi,
peu...
Kiwi.
Donc du nom de ce petit animal hein, des forêts néo-zélandaises, les kiwis vont redonner une lettre de noblesse au rugby qui, dans les années 30, avait frayé un petit peu avec le fascisme et avait frayé beaucoup avec aussi le régime de Vichy pendant l'occupation. Dernière archive, donc c'est 1964, trois ans après la première tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Et là, les spectateurs français peuvent voir tout le jeu néo-zélandais, c'est-à-dire un jeu extrêmement complet, avec des avants qui tapent des drops, des coups de pied, et donc montre un peu les insuffisances du jeu français, mais en même temps, depuis le début du siècle, les Français ont tenté de s'inspirer du modèle néo-zélandais.
Et dans la première archive, puisque vous les décortiquez précisément, Paul Dietschy, le mot « danse indienne » est utilisé, je suppose qu'il s'agit des Maoris, mais on a dit que l'histoire du sport était tissée de légendes. Dans les rencontres France-All Blacks, il y a un moment de légende du côté français, c'est 94, l'essai du bout du monde, après la passe du bout du monde.
Oui, alors c'est fait, justement, c'est le French flair finalement contre le rugby total des All Blacks. Certainement, si les Français réussissent contre les All Blacks, c'est que d'abord, souvent, ils trouvent la solution tactique, hein, comme en 99. C'est aussi parce qu'ils savent jouer très fréquemment en contre, à développer des actions extrêmement rapides qui désarçonnent une équipe qui a l'habitude de dominer.
Et puis, disait Philippe Sella, en 94, on a gagné parce qu'on est des mecs et qu'on ne craint rien. 2007, ça aurait pu se produire aussi.
Attention à défense. Mais Alamou qui s'est retrouvé au sol, sorti Wipou. Carter.
Il y a eu surnom.
Carter avec un énorme tampon de Sébastien Chaval sur Massoré.
Ah, il y a plus de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal.
Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas?
Oui,
je crois qu'il l'a défié du regard.
C'est du costaud.
Et tout le public réagit hein, sur ces ralentis parce que en France, on est le seul pays où on ne voit pas les ralentis sur les écrans géants. Mais ici, en Nouvelle-Zélande, on le voit.
Et c'était un beau plaquage.
Oh, ce regard de Sébastien Chaval.
Moralité, pour battre les All Blacks, il faut devenir un peu soi-même All Blacks.
Oui, il faut, comme les rugbymen le disent, accepter le combat. Hein. La victoire de 2007 en Coupe du Monde, c'est faite au prix hein, d'un combat extrêmement dur, extrêmement rude. D'abord, les affronter physiquement et ensuite les battre tactiquement par des mouvements. Hein, et souvent, par rapport aux Sud-Africains, par exemple, eh bien, les All Blacks ont tendance à lâcher prise, à se démoraliser, notamment contre les Français.
Bon, on ne va pas faire de commentaires parce qu'on est dans une émission d'histoire sur l'absence de Chaval, cette fois-ci, ni sur le rôle du coach énigmatique ou de notre capitaine très respecté.
Bon, pour Chaval, il paye un peu cette footballisation du rugby. Hein. Quant au coach, je ne me prononcerai pas sur, disons, quelques difficultés qu'il peut rencontrer.
Enfin, on n'est pas là pour faire pression. Il paraît qu'une fois, le président de la République a obtenu que parte en tournée un joueur de rugby dont il s'étonnait qu'il ne fût pas dans les troupes. C'était au temps de François Mitterrand.
Ah, c'est possible, on s'est lié aussi aux relations un peu troubles entre le rugby et la politique, le radicalisme, puis certaines municipalités socialistes, les relations sont importantes.
Donc le match c'est demain.
Vas-y petit, vas-y, vas-y, oui.
Allez petit.
Vous trouvez que c'est très sérieux dans une émission d'histoire de finir comme ça avec Roger Couder? Vous êtes sûr qu'on a fait une émission d'histoire d'ailleurs?
Absolument, parce que le sport c'est peut-être l'un des derniers lieux où le sentiment national s'exprime, où de grands événements rassemblent. Hein. Sans parler du rugby, on peut parler du football. Pour certains historiens, 1998, la victoire des Bleus, c'est un événement hein, de la nation française. Et peut-être que la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde sera aussi un événement du 21e siècle pour l'histoire de France.
Oui, d'accord. Où est-ce que vous étiez au moment de l'essai du bout du monde de 1994? Parce qu'un vrai événement fait qu'on se souvient, même si on n'était pas devant son poste de télé, de la manière dont on y a participé de près ou de loin.
J'étais chez moi dans la région parisienne.
Merci à vous, Paul Diaci, qui va rejoindre son université de Franche-Comté. Vos livres chez Nouveau Monde, seul ou avec Patrick Clastre et d'autres collaborateurs. Tout à l'heure, les grosses têtes, c'est dans la foulée hein, des All Blacks, dans l'émission de Mathieu Vidard, son rendez-vous du vendredi. Nous parlons-nous de la naissance de l'euro lundi, ou après l'Assemblée Générale de la Banque Mondiale et du FMI de ce week-end. À la technique, Éric Morin et Michel Bézikian. À la réalisation, Jacques Cigale, que vous avez convaincu. Et puis, habillé en noir, le capitaine de l'équipe pour aujourd'hui, c'était Franck Olivard, avec le secours de Meryl Moneghetti, de Raphaël Kraft, de Frédéric Martin. Il est 14h, vous écoutez France Inter.